Je vous souhaite la bienvenue pour cette journée d'études. Éduquer dans les années 2020, quelle présence pour travailler collectivement en contexte de crise. Bon, pour situer un petit peu cette journée, elle est organisée par le pôle fédératif de recherche et de formation de l'INSPE Normandie-Caen. C'est une journée interaxe, comme on dit, c'est-à-dire une journée qui croise l'ensemble des axes d'études et de recherche, l'ensemble des espaces en gros scientifiques de notre INSPE. Et puis pour situer un petit peu, comme je l'ai déjà un peu présenté tout à l'heure, mais pour savoir avec qui on est aujourd'hui, qui est là avec vous, hein, qui est votre voisin, qui est là juste à côté de vous, vous ne le voyez pas, mais il est là. C'est d'abord une journée en premier lieu banalisée, donc pour tous les étudiants, étudiantes de tous les parcours, de toutes les mentions, de tous les sites de l'INSPE de Normandie-Caen, donc principalement composée d'étudiants, des écoles. Elle est aussi ouverte donc, aux enseignants, elle est inscrite dans le PAF Normand. Donc, on a quelques enseignants, acteurs, actrices de l'éducation qui sont là. Et puis ensuite, ça a été diffusé au niveau national. Donc, on a quelques formateurs, formatrices et chercheurs qui sont parmi nous. On est très nombreux à participer. En effet, là, pour l'instant, on est 400. Donc, disons, ben, on vous remercie d'avoir répondu présent. Et on va donc commencer tous ensemble de manière un peu, je ne sais pas, pyramidale en quelque sorte. On est tous ensemble. Puis ensuite, on va se répartir dans des espaces de conférences un peu plus restreints. Et puis cet après-midi, dans des ateliers de manière un peu plus restreinte encore. La journée, elle est donc entièrement en distanciel, une sorte de mise en abîme en quelque sorte de ce qui nous intéresse ici, puisque c'est notamment la question de la présence à distance, puis celle de la possibilité de travailler tout de même collectivement dans ce contexte-là. Donc, avant de présenter le contenu, quelques éléments organisationnels. Dans le premier temps, pour participer, et bon, en même temps, si vous êtes là, si vous avez bien, c'est ce qui me permet de faire transition vers des acteurs pour nous aider, puisque nous avons Laurine Dernier qui vous a transmis hier tous les liens. Donc Laurine Dernier qui gère l'organisationnel événementiel à l'INSPE, que je tiens vraiment à remercier, puisque ça a été un travail colossal d'organiser ça à distance. Donc elle est là, merci beaucoup Laurine pour ce travail. Et puis aussi donc le CEMU de l'Université de Caen avec Éric Boulanger qui a coordonné et puis ses collègues. Donc merci aussi pour la dimension technique. Si jamais vous aviez des soucis éventuels, organisationnels ou techniques, vous pouvez les contacter, mais je me fais relais de leur parole en disant que c'est vraiment, si exceptionnellement il y a un souci, vous pouvez le faire, parce que c'est pareil, s'ils sont contactés par 400 personnes, ça va être difficile à gérer pour eux. Mais bon, encore une fois, merci. De la même manière, et tout à l'heure, on est quand même assez nombreux, donc on ne peut pas trop tous mettre la caméra et discuter entre 400 personnes de bonne compagnie. Donc, pour l'instant, pour les ateliers, vous verrez cet après-midi avec chaque animateur, animatrice. Et pour l'instant, l'idée, c'est de poser des questions dans le fil de discussion. Et puis, elles seront reprises, articulées par l'animateur ici, moi-même, accompagné de collègues, parce que tout seul, ce n'est pas évident de faire ça, pour essayer de les soumettre aux conférenciers, donc à Stéphane Bonnery pour l'instant, et puis aux autres tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à prendre le temps de l'intervention. Et puis ensuite, on essaiera de proposer une exportation en fait, du fil de discussion pour alimenter la suite de la journée. Donc par la suite. Des ressources pour collaborer aussi, puisque l'idée, c'est qu'on échange, mais c'est aussi qu'on puisse faire collectif au travers des ressources. Donc, vous avez quelques éléments qui ont été déposés sur la page web de la journée. Vous en avez qui seront ou qui sont déposés dans le fil de discussion et puis d'autres qui seront aussi diffusés suite à la journée. Il y aura des enregistrements des conférences d'ailleurs enregistrées, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois que je vois le signe. Voilà. Donc, maintenant, je vais intervenir juste un petit peu pour présenter le contenu de la journée. Vous l'avez à peu près saisi, mais on a souhaité en fait articuler un questionnement sur ce que l'on vit depuis plusieurs mois. Appelons ça, avec des guillemets, la crise Covid, mais qu'on a voulu évidemment dépasser de manière peut-être d'ailleurs pas très modeste, hein, éduquée dans les années 2020, carrément, allons-y, hein, en considérant qu'il y avait là comme un signe, comme peut-être un symptôme de ce qui pouvait se jouer aujourd'hui en termes d'éducation, en termes d'enseignement, de formation, de ce que pouvait peut-être nous annoncer cette période pour voir venir les enjeux d'une éducation dans les années 2020. Et on l'a articulé en trois dimensions qui constituent les sous-titres, enfin le triple sous-titre en fait de la journée. Tout d'abord, quelle présence? Depuis le printemps 2020, on a été amené à travailler davantage à distance. Mais en fait, qu'est-ce que ça a vraiment changé dans le champ de l'éducation? Comment les acteurs se sont attachés à rendre présents les absents? Qu'est-ce que les acteurs de l'éducation ont inventé pour créer de la présence, pour créer d'autres formes de présence, peut-être même des nouvelles formes de présence? Et puis, malheureusement, qui s'est retrouvé encore résolument absent, malgré tout cela, malgré ses efforts, et puis malgré toute l'inventivité déployée par les acteurs et les actrices. Deuxième dimension, travailler collectivement. Comme c'est un objet d'étude déjà ancien dans les recherches en éducation, la question du collectif, la question du travail collectif, et puis elle s'est vue retrouver cette question, en fait, encore plus d'importance dans ce contexte de crise. Collectif comme manière de travailler, collectif comme visée éthique, collectif parfois simplement comme élément de langage aussi. En tout cas, le collectif comme condition de possibilité de tout projet éducatif à interroger, peut-être aussi à redéfinir les espaces d'apprentissage, les dispositifs d'enseignement, les situations didactiques, voire peut-être les formes éducatives qui pouvaient sembler aller de soi avant la crise. Troisième dimension, un contexte de crise justement. L'idée, c'était un petit peu quand même ici, en quelque sorte, de jouer de l'équivoque, si vous voulez. C'est-à-dire, est-ce que c'est la COVID, qui a impulsé un contexte de crise, ou est-ce que c'est le contexte de crise dans lequel on vit qui a impulsé la COVID? Est-ce que la crise vécue dans les métiers de l'éducation, s'il en est une, est-ce qu'elle a commencé au printemps 2020? Est-ce que les inégalités scolaires, est-ce que les difficultés professionnelles des enseignants, par exemple, est-ce que tout ça s'est vu amplifié, ou amoindri, ou transformé au travers de la dite crise COVID? Quoi qu'il en soit, pour finir sur la présentation du contenu de la journée, il s'agira en fait de comprendre, particulièrement ensemble, comment des acteurs, des actrices ont su être inventifs, puis aussi prendre en main leur métier pour faire face à la crise. Alors, pour situer, on a invité des chercheurs, des acteurs, des actrices qui avaient déjà étudié plusieurs de ces aspects. Parfois, au travers de recherches qu'on a très rapidement, en fait, dès le début de la crise sanitaire, étudier ce qui se jouait effectivement pour les acteurs de l'éducation, pour les enseignants, pour les étudiants, pour les élèves, pour les familles, pour l'ensemble des acteurs. Certains de nos invités ont même, en fait, au-delà des enquêtes, expérimenté des dispositifs pour faire face à la crise. D'autres invités sont des chercheurs en fait, qui se sont intéressés bien avant la crise sanitaire à la question de la présence dans la relation éducative, de la présence à distance, on pourrait dire, ou bien la question de ce qui fait collectif, voire de ce que nous avons, disons, de commun lorsqu'il est question d'éducation et donc de connaissances. Puis lorsqu'il est question aussi ici d'espaces particulièrement vastes comme ceux-là par les interfaces numériques. Et au-delà de nos invités, je voudrais aussi souligner que cet après-midi, de nombreux collègues locaux, des copains donc, ont joué le jeu de la réflexion collective en fait et sont emparés des questionnements ouverts par cette journée d'études pour proposer un regard singulier depuis leur sensibilité de chercheur sur les questions qu'on s'est posées et depuis donc bien des approches différentes didactiques, sociologiques, géographiques, ergonomiques, cliniques, historiques. Et je les remercie donc d'avoir bien voulu jouer à ce jeu, d'avoir voulu jouer collectif. On va donc réfléchir ensemble à la crise Covid. Est-ce qu'elle nous apprend de ce qui lui préexiste aussi et de ce qui l'attend en matière d'éducation? Et c'est, me semble-t-il, par là qu'on va commencer la journée. Quel contexte de crise est sous-jacent à la crise? En tout cas, c'est comme ça que je poserai la question pour enchaîner en présentant notre premier conférencier qui a la charge en fait, d'ouvrir le bal, en quelque sorte. Donc, c'est Stéphane Bonnery, donc, qui est professeur en sciences d'éducation à Paris 8 au sein du CIRCEF ESCOL. Pour mais ses travaux portent sur les inégalités scolaires et culturelles, au croisement de deux approches. D'une part, la sociologie de l'éducation, des apprentissages, du système éducatif, de la culture, de la jeunesse. Puis d'autre part, avec une intégration aussi des perspectives didactiques disciplinaires, qui permettent d'appréhender l'activité des élèves, leur activité cognitive, langagière, aux prises avec les disciplines, et puis la manifestation de ces disciplines, je crois avoir compris cela comme ça, dans les curricula, dans les dispositifs, plus largement dans les formes éducatives, des formes pédagogiques, des formes scolaires particulières. Il est l'auteur de nombreuses publications, dont certains très connus. Il a notamment écrit et dirigé plusieurs ouvrages, numéros de revues, on en a vu des extraits tout à l'heure. Il a écrit un ouvrage relativement très connu, « Comprendre l'échec scolaire, la dispute en 2007 », il a dirigé Support pédagogique inégalité scolaire en 2015 à la dispute aussi. Il a dirigé aussi le numéro thématique sur la sociologie des enseignements artistiques et culturels de la revue Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs en 2020. Et puis, ce qui nous a conduit un petit peu plus à l'inviter aujourd'hui, l'ouvrage qui est présenté ici et sur lequel il va notamment s'appuyer, L'éducation au temps du coronavirus, qu'il a dirigé avec Étienne Doy en 2020. Et je vais arrêter le partage ici et donner la parole à Stéphane Bonnery pour la présentation de cette conférence inaugurale. Est-ce que Stéphane, on y est?
Vous m'entendez là? Ouais.
Je pense, en tout cas, moi j'entends très bien.
Bon, donc c'est que ça doit marcher. Parce que toi, j'ai mis le micro.
On a les réponses, on vous entend. Et merci encore d'avoir le courage d'intervenir en premier.
Ça va. Merci. Bonjour de l'invitation et bravo de cette initiative qui vise à ce que les collègues enseignants s'emparent des questions plutôt que de seulement les subir. C'est de bon augure. Alors, dans le temps imparti de 30 minutes, je regarde la pendule parce que je sais que je suis un peu bavard, je vais essayer d'aborder quelques points et je reviendrai avec plaisir sur ce qui vous intéresse le plus parce qu'en 30 minutes, j'ai peur de faire un balayage un peu rapide en espérant ne pas être trop caricatural sur chacun des points si on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Alors, peut-être la première des choses, bon, ça c'est le résumé que j'avais envoyé. Je vais parler à partir de plusieurs sources. Donc l'ouvrage dont Pablo vient de parler, qui est sorti cet été et qui analyse la crise Covid, notamment la première phase du confinement. La deuxième phase, qui est davantage tournée vers la phase de déconfinement et la suite, a été traitée dans l'article de la revue La Pensée, qui est en deuxième point. Et ce que je vais essayer d'expliquer, c'est en quoi la crise Covid, bien sûr, vient exacerber, vient amplifier, vient aggraver des choses, mais ces choses-là étaient en germe et c'est un moment d'accélération et d'explosion. De choses qui étaient déjà là et qui méritent qu'on les comprenne. Et c'est parmi ces choses-là, les deux références suivantes, elle comprend l'échec scolaire que Pablo vient d'évoquer et dont je vous annonce qu'il va ressortir le mois prochain puisqu'il était épuisé depuis 6 ou 7 ans, et support pédagogique et inégalité scolaire. Je me permets aussi de vous mettre en dessous, je ne sais pas si vous voyez la souris, la référence qui est sortie il y a quelques jours de collègues qui travaillent sur l'enquête ELF, qui est une enquête nationale pilotée par l'INED et des collègues de différentes disciplines, qui suit les enfants de la déclaration de maternité pendant 20 ans. Et donc là, les enfants sont à la fin de l'école maternelle, et donc ils ont enquêté statistiquement, c'est très intéressant. Alors pour ce qui concerne, et je mettrai simplement à l'écran la référence sur laquelle je m'appuie au moment de mon propos. Donc cet ouvrage-là qui réunit 16 enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation et en sociologie a procédé par des enquêtes, comme on a pu le faire dans les conditions du moment, pendant le confinement. Donc enquêter pendant le confinement, vous vous doutez bien que ce n'est pas tout à fait nos pratiques, mais nous sommes 16 à avoir recueilli des données, école primaire, collège, lycée, université, auprès de la hiérarchie, des enseignants, des familles. Et c'est en partie avec ces matériaux que ce livre a été construit, ainsi que l'article que j'ai écrit dans cette revue. Alors, trêve de préambule, la crise que les enseignants et les familles subissent, je crois que je vais essayer d'en parler prudemment parce que les enseignants ont le nez dans le guidon, ils font face à une situation avec du danger, avec des risques, avec une situation très compliquée et peut-être que ce que je vais essayer d'évoquer là peut être maladroit et brutal parce que je vais essayer de dire vous avez le nez dans le guidon. Mais ça vaut la peine d'essayer de trouver un peu de temps pour lever le nez dans le guidon et d'essayer de comprendre ce qui trame la situation dans laquelle chacun essaie de se débattre. Et je crois que l'histoire du système scolaire, il y a souvent une polémique que je trouve un peu stérile qui consiste à dire l'école reproduit les inégalités ou l'école transmet des savoirs à tous les élèves et démocratise. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi on dit « ou », puisque dans mes analyses, elle fait les deux à la fois depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'elle a permis à des générations entières d'accéder à des niveaux de diplôme et des niveaux de connaissances qui n'étaient pas autorisés pour leurs parents. Voilà, moi, je suis né au début des années 70. Mes grands-parents, qui étaient jeunes adultes durant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation et la résistance, eh bien, n'ont pas eu la chance de faire des études au-delà d'école primaire parce que les enfants de paysans n'étaient pas autorisés à en faire, hein, ou il y avait très peu de bourses pour le permettre. Donc, les générations suivantes ont acquis des savoirs plus importants, du secondaire, oui, mais comme on vit dans une société inégalitaire où il y a des classes sociales, bah, toutes les classes sociales ont étudié plus longtemps, et finalement, chacun se déportant vers le haut, les inégalités se sont déplacées, et les enfants des milieux populaires ont appris davantage de choses, mais c'est insatisfaisant, et l'objectif d'égalité est loin d'être pleinement rempli, pour ne pas dire que c'est très insatisfaisant. Donc, finalement, l'école connaissait déjà une crise, pas au sens péjoratif où tout fout le camp, rien ne va bien, c'est la faute de ceci ou de cela, au sens où on demande à l'école des logiques contradictoires. Et notamment, le métier d'enseignant me semble beaucoup plus difficile, c'est ce que j'ai développé avec des collègues dans l'ouvrage qui est à gauche, Support pédagogique et inégalité scolaire, où les manuels sont le témoin de cela. Dans les années 1950-1960, en cours moyen, on enseignait la vie du temps de Louis XIV comme un savoir objectivé, c'est-à-dire voilà, il est là, dans un résumé, on l'apprend par cœur et on le retransmet. Le boulot de l'enseignant, c'était finalement de faire oraliser le manuel, d'accompagner au sens de, voilà, de faire apprendre par cœur un savoir qui relevait plutôt de la petite histoire de comment Louis XIV vivait, dans sa cour à Versailles. Quelques décennies plus tard, on se retrouve au même niveau de classe, hein, à devoir faire comprendre et pas seulement retenir la notion de monarchie absolue ou d'absolutisme en tant qu'organisation sociopolitique d'une société. Quand même, voilà, et je peux le faire à tous les niveaux. On est passé de la vie des hommes de Cro-Magnon au concept de sédentarisation au néolithique en CE2. Bon, donc les programmes ont rechangé entre-temps depuis qu'on a fait l'ouvrage, mais cette tendance, elle est là. Des savoirs se sont complexifiés dans ce qu'on enseigne à l'école, c'est plutôt bien à l'absolu parce que les élèves sont préparés, mais est-ce que ça peut rentrer dans un programme d'enseigner autant de choses complexes alors que depuis une quinzaine d'années, on a supprimé 3 heures de cours par semaine, 2 heures de cours par semaine, ce qui équivaut sur l'ensemble de la scolarité de la petite section de maternelle au CM2 à la suppression d'une année scolaire. Comment on peut enseigner des choses plus compliquées, avec davantage de discipline, éducation à langue vivante, etc., dans un temps beaucoup plus contraint? Ben, l'école est en crise au sens où on demande aux enseignants de tenir des objectifs avec moins de moyens temporels, avec une population scolaire qui est toujours aussi populaire, quelle que soit l'idéologie que la télé déverse. Il y a 55% des enfants de la scolarité unique dont les parents exercent des métiers d'exécution, ce qui n'est absolument pas péjoratif dans ma bouche, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas fait d'études longues. Et ça veut donc dire que si la sédentarisation en tant que process d'installation des hommes préhistoriques n'est pas comprise en classe, il n'y a pas de raison qu'elle soit traitée à la maison. Bon, ça, ça fait partie des difficultés du métier qui étaient déjà là. Dans les difficultés du métier qui étaient déjà là, il y avait aussi le fait qu'on demande aux enseignants, de transmettre à tous et d'individualiser, ce qui, en fait, est totalement contradictoire, puisque si on individualise, on ne vise plus les mêmes objectifs, quelles que soient les phrases polies que l'on énonce. Et donc, ces contradictions, les enseignants sont tiraillés et ils font ce qu'ils peuvent. Et de l'autre côté, les parents sont eux-mêmes tiraillés et font ce qu'ils peuvent. Alors, justement, j'évoque les parents. Comment le confinement a exacerbé les choses? Donc, évidemment, face à une pandémie, le confinement a été décidé. Et je crois qu'il n'y avait pas trop d'autres solutions sur le court terme, si ce n'est que sur le moyen terme, puisque maintenant, ça fait 10 mois, depuis le 12 mars, que le confinement a été décrété. se poserait peut-être, mais ça, ce n'est pas au niveau des enseignants seuls que ça se pose, mais au niveau des décisions plus générales, comment on réduit les risques pour scolariser en petits groupes et donc diviser les classes et donc recruter massivement des enseignants, les former, réquisitionner ou payer des locaux pour arriver à scolariser en toute sécurité. On ne va pas rentrer dans les polémiques d'aujourd'hui, mais je crois que ces conditions-là ne sont pas réunies aujourd'hui parce que ça… Voilà, et donc du coup, ça poserait la question des collectifs de travail entre enseignants. Si on en revient à la stricte question du confinement, dans un premier temps, eh bien, quelques conceptions ambiantes ont volé en éclats. La conception selon laquelle il y aurait des digital natives, c'est-à-dire des enfants qui sont nés avec l'informatique, que donc on appelle la génération Y, eh bien, on a vu que c'était beaucoup plus compliqué que ça. La plupart des familles ont accès à Internet, certes, mais avoir accès à Internet pour cliquer trois trucs sur le bon coin ou pour avoir un usage intellectuel bureautique basé sur l'écrit, eh bien, le confinement a mis en lumière ce que des chercheurs comme Dominique Pasquier disaient depuis un moment. Et puis, le confinement a montré que l'aisance avec les fonctions bureautiques, les fonctions de travail d'un ordinateur, déjà quand les familles étaient équipées, avaient un forfait qui le permettait ou une box, quand on faisait les devoirs autre chose que sur un smartphone et donc avec un écran qui permettait de voir les choses, quand on avait une imprimante ou pas, quand on avait un appareil disponible pour un nombre d'enfants par tête de pipe, excusez-moi cette trivialité, ou si en Seine-Saint-Denis, là où j'exerce, moi, mes étudiants me racontaient qu'ils étaient 6 ou 7 dans la fratrie et qu'en gros, il y avait un appareil ou deux, quoi. Voilà. Comment on fait quand il y a 6 ou 7 scolarisés, quoi. Bon. Donc, ces questions-là, ça fait partie du contexte auquel les enseignants se sont confrontés. Et je crois qu'il ne faut pas les sous-estimer en termes matériels, économiques et techniques, mais elles ne doivent pas non plus cacher ces conditions matérielles, les conditions culturelles, des habitudes, des outils du travail intellectuel. Par exemple, moi, dans les interviews que j'ai pu faire pendant le confinement, ce qui m'a frappé, c'est deux témoignages opposés, où d'un côté, des familles expliquaient l'extrême difficulté à se sortir de tous les documents qu'on leur envoyait et qu'est-ce qu'il fallait en faire. Un coup, il y avait du Word, un coup, il y avait du PDF, un coup, il y avait du ceci, un coup, il y avait du cela, ils n'y comprenaient rien. C'était dans des mails qu'ils n'ont pas voilà, l'usage du mail est très peu répandu. Donc, il y avait des heures passées à des dimensions techniques pour accéder aux documents et au contenu. Quand dans d'autres familles, des parents cadres un peu libérés, parce que certains cadres étaient très occupés pendant le confinement, mais d'autres cadres étaient un peu libérés, ont profité de l'occasion pour former l'ado de service à dire, ben voilà, l'ordinateur, ce n'est pas que pour faire joujou, tu reçois un mail, ah, ok, pour ne pas que ça se perde dans la forêt des informations, le document attaché, comment tu le classes, comment tu vas le renommer, quelle arborescence des dossiers pour ranger tout ça. Et donc, finalement, se sont saisis de l'occasion pour traiter cette question de l'usage de travail d'un ordinateur. Mais plus généralement, je crois que la question de travailler collectivement qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, elle a été posée sur qu'est-ce que travailler collectivement entre enseignants et familles. Donc, il y a des choses très intéressantes qui sont apparues pendant le confinement où on doit dire qu'aujourd'hui, depuis 10-12 ans, dans le premier comme dans le second degré, on a une génération d'enseignants qui a été profondément renouvelée, où les baby-boomers nés juste après-guerre, qui pour la plupart avaient été quand même bénéficiaires des trajectoires de massification scolaire et donc qui avaient une connaissance des milieux populaires, sont partis à la retraite. Et on a recruté, et je ne formule aucune critique, simplement j'énonce un constat objectif, on a recruté des enseignants qui sont souvent plutôt fils ou encore plus filles de cadres, conjoints de cadres, et pour qui la vie quotidienne des milieux populaires n'est pas quelque chose de familier. Et donc, cette connaissance de ce qu'est la population française dans sa majorité, très populaire, voilà, est-ce qu'elle était traitée en formation? Comment on s'en donne les moyens? Donc, ces questions-là se sont posées avec acuité, mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on a vu les familles découvrir, avec une grande surprise, que l'enseignant, il ne s'en fout pas de nos gamins. Il prend des nouvelles. Il va même jusqu'à utiliser les quelques applis que l'on maîtrise, WhatsApp, etc., pour nous demander de nouvelles, s'adapter. Et là, il y a un regard des familles populaires sur l'enseignant qui a bougé, et symétriquement, des enseignants qui, ce n'est pas le cas de tous, il ne faut pas généraliser, il faut y aller doucement, mais j'ai reçu des témoignages d'enseignants qui disaient, moi je pensais qu'il y a des familles qui s'en foutaient de la scolarité, on ne les voyait jamais, mais en fait j'ai fini par comprendre qu'ils n'osaient pas, que c'était une forme de respect, de ne pas venir nous demander de compte. Là, il y a des petites choses qui ont bougé, qui mériteraient qu'on y réfléchisse, pour voir comment on y donne suite, parce que effectivement, c'est une piste de travail. Mais ce que ça révèle, c'est qu'il y a un écart, et ce n'est pas une mauvaise chose qu'il y ait un écart, entre la majorité des familles populaires qui ont arrêté leurs études assez tôt, avec la culture scolaire. Et moi, je combats l'idée que recouvre le terme de handicap socioculturel, parce que ce terme est trompeur. Il dit une chose vraie, c'est que la culture familiale, dans la plupart des cas, est éloignée de la culture scolaire. Mais ce n'est pas un handicap. Les familles ne handicapent pas leurs enfants. C'est la majorité des cas, c'est la norme. Pourquoi dire que c'est un problème? Au contraire, cet écart, c'est l'espace de travail de l'enseignant. Sinon, ce n'est pas la peine de payer des enseignants. Si à la maison, on peut transmettre la culture scolaire, il n'y a pas besoin d'école publique, je vous le dis de suite. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème. Les familles ne handicapent pas leurs enfants. Super, c'est l'espace de travail des enseignants. C'est de ça dont il faut s'emparer. Et il faut arrêter de dire à chaque rentrée scolaire, « Oh là là, j'ai un niveau très hétérogène, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire. » Ben oui, on vit dans une société où il y a des classes sociales. Voilà, c'est l'espace de travail de l'école, de créer du commun face à la diversité. Ce n'est pas d'accroître la diversité par l'individualisation, c'est de créer du commun. Donc, comment cette culture commune, on la crée. On est quelques années après les attentats, nous avons été en première ligne à Saint-Denis, où on a passé beaucoup de temps à regretter que des enfants qui avaient grandi dans le pays ne partageaient pas les valeurs communes. Ben justement, il ne faut pas moins d'écoles et moins de communs, il faut plus d'écoles et plus de communs. Voilà. Donc, ces défis-là, la crise les a exacerbés parce que, oui, l'enseignant, si on rentre dans le détail de la classe, ce n'est pas un distributeur de fiches. Voilà. Et ça, le confinement l'a particulièrement révélé. Quand on fait circuler une fiche, comme c'était le cas dans le confinement, on n'était pas sur place, c'était compliqué, on ne pouvait pas avoir un entretien téléphonique individuel avec chaque parent et chaque gamin. Mais quand il y a une fiche où les 3-4 premiers exercices sont des tâches de constat, j'ai en tête des choses que j'ai vues, pas pendant le confinement, mais précédemment, mais que le confinement a confirmé, ou séance de technologie sur la conduction électrique, on fait un branchement, est-ce que l'ampoule, que constates-tu, l'ampoule s'allume, deuxième branchement, que constates-tu, l'ampoule ne s'allume pas, 3-4 questions factuelles, voilà les premières tâches, et la dernière question, plus réflexive, qu'en conclus-tu? Déjà, en classe, on avait un problème. Toute une partie des gamins ne comprenaient pas, alors qu'ils avaient quand même 7 ou 8 ans de scolarité, voire 10 ans derrière eux, que les premières tâches n'étaient pas des finalités en soi, elles étaient l'occasion de formuler des constats, des réflexions, à mettre en synergie pour, dans la dernière question, passer de la logique de tâche à la logique de savoir. Donc, qu'en conclus-tu? Il faut que tous les éléments soient reliés pour que le courant électrique se passe et que l'ampoule s'allume. Voilà. Et ça, la crise Covid a exacerbé ce constat-là dans le sens où l'enseignant n'est pas un distributeur de fiches. Voilà. Ça fait débat par rapport, je ne vais pas rentrer dans les polémiques ministérielles ou autres, mais est-ce que l'enseignant n'est qu'un diffuseur de contenu de fiches? Ou est-ce qu'il y a une question d'enseignement, et pas que d'accompagnement, d'enseignement de contenu qui est importante? Parce que ce qui était impossible pendant le confinement, eh bien, peut-être ça doit nous amener à réfléchir comment on travaille dans la classe en ayant en tête le partenariat avec les familles. Et le partenariat, ce n'est pas faire la même chose. Finalement, le rôle de l'école, l'un des rôles de l'école, c'est de transformer les enfants en élèves, mais pas magiquement, c'est de les transformer en élèves parce qu'ils apprennent des savoirs. et qu'on déplace ce qu'ils ont dans la tête. Et là, le cadre matériel de la classe, le collectif travaillant ensemble, des élèves avec le maître ou la maîtresse, est un lieu qui aide à prendre conscience qu'on n'est pas là pour vivre exactement comme on le fait dans la vie de tous les jours. Voilà. Si on parle du chat en classe, ce n'est pas la bestiole qui miaule et qui griffe ou qu'on caresse et qui ronronne ou qu'on peut poursuivre à coups de cailloux. Voilà. C'est un animal que l'on va étudier parce qu'on est dans la discipline science en tant que mammifère, en tant que vertébré, que sais-je encore. Hein. Qu'on va étudier en histoire parce que chez les Égyptiens, il était le symbole de patati patata. Qu'on va étudier en poésie parce que chez une poète comme Colette, elle, c'est le symbole du foyer doux et chaleureux, parce que ceci, parce que cela. C'est que les objets premiers du monde que l'on rencontre, eh bien, les enfants, pour la plupart d'entre eux, quand ils vivent, ils n'étudient pas le monde. Voilà. Il n'y a que dans ma famille, chez, ou dans les vôtres probablement, chez les intellos, que quand on met la table, eh bien, c'est un exercice pour les 3-4 ans afin de travailler la latéralisation entre la droite et la gauche. Voilà. Dans la plupart des familles, ce n'est pas la réalité du quotidien. Le monde est premier, on vit dedans, on ne passe pas son temps à l'interroger. Or, l'école, ce n'est pas la vie. Et c'est bien pour ça qu'on a construit des écoles à part. Alors, peut-être de façon caricaturale lors de la Troisième République, avec des murs très hauts pour qu'on ne voit pas la rue, c'était très pensé comme coupure. Mais l'école est une frontière qui a besoin d'être instituée, qui a besoin d'être mise à part, parce que il y a besoin de descendre du vélo pour voir les gens pédaler. On peut réfléchir en pédalant, mais c'est quand même plus compliqué. Et que les élèves ont besoin de transformer les objets premiers du monde en objets seconds que l'on interroge, en objets d'étude que l'on va comprendre, apprendre, et ça va nous donner du pouvoir de penser sur le monde. Voilà. Une partie des élèves, souvent les enfants de cadre, souvent les enfants des catégories supérieures, des catégories dominantes, eh bien, vont avoir à ce point intériorisé les frontières entre vivre et comprendre que pour eux, le cadre matériel est secondaire, ils les ont déjà dans la tête. Or, je crois que l'école ne devrait pas être basée sur cette petite minorité que sont nos enfants. Elle devrait au contraire être basée sur la grande majorité que constituent ceux qui n'ont pas encore ces cadres dans la tête. Et notre rôle, c'est de construire ces cadres et de dire, eh bien, les objets que l'on rencontre, il faut les déplacer et les envisager sous un autre angle, un objet d'étude. Et donc, il n'y a rien de spontané chez les enfants. Quand on croit que les enfants ont des dispositions à ou sont doués, métaphore biologique, en fait, on ne fait juste que masquer le fait qu'ils l'ont appris, et s'ils ne l'ont pas appris à l'école, ils l'ont appris ailleurs. Voilà. Et donc, la phase du confinement doit nous interroger. Moi, ça faisait quand même un moment que j'étais très inquiet sur le fait que, ben, face à l'augmentation des exigences scolaires, je l'ai dit en termes conceptuels, en termes de nombre de disciplines dans le primaire et la réduction du temps scolaire, ben, la façon que les enseignants ont trouvé pour résoudre cette contradiction, c'est d'externaliser, pas consciemment, mais de plus en plus, vers les devoirs, une part de la compréhension. Alors maintenant, c'est presque à la mode, classe inversée, etc. En fait, classe inversée, je crois qu'il faut arrêter. Ça veut simplement dire qu'on transfère à la famille la responsabilité de faire le cours. Parce que quand le gamin arrive en classe et qu'il a l'air d'avoir spontanément compris tout seul, c'est juste que les parents sont passés derrière, les études à la maison le montrent, il faut arrêter. Voilà. Donc, je pense que l'école doit se faire à l'école. Et moi, je suis plutôt un défenseur de l'idée qu'il doit y avoir des devoirs. Les devoirs, c'est fait pour stabiliser ce qui a été compris en classe. C'est pas le lieu de la maison, ce n'est pas le lieu de la compréhension, parce qu'alors, il n'y a que 20-25% des élèves qui peuvent assumer ça. Ou plutôt, il n'y a que 20-25% des familles qui peuvent assurer de se substituer à l'enseignant. Et que le confinement nous a fondamentalement montré ça. L'idée de continuité pédagogique, c'est bien dans le sens où tout le monde a le souci de la scolarité, mais c'est un piège comme formule, parce qu'il n'y a pas de continuité pédagogique. Dans l'immense majorité des familles, les adultes ne sont pas des intellos formés aux logiques scolaires. Donc, quelle continuité? Il faut assumer la discontinuité et que l'école fasse son job à elle. Et donc, que les enseignants voient leur fonction requalifiée, valorisée, il y a peu de personnes qui peuvent faire ça. Donc, une façon d'arrêter la dégradation de l'image du métier d'enseignant, c'est de dire, mais il n'y a que l'école publique qui peut assurer de construire des références chez tous les élèves. Et que ce cadre de travail collectif, pour les élèves, eh bien, il est nécessaire de voir en quoi précédemment, eh bien, il y avait ce que j'ai appelé, je vais retrouver le bon truc là, c'est à droite, comprend l'échec scolaire, le bouquin ressort dans un mois, avec une autre couverture. Ce que dans l'équipe ESCO, nous appelons des malentendus socio-cognitifs, on croit se comprendre, mais en fait, il y a une incompréhension, il y a un malentendu. L'élève, il croit qu'on lui donne 4 exercices, et bien, il commence chaque exercice comme si c'était une fin en soi coupée du reste, et il répond. Il y a un bout de phrase, que constate-tu, on met un truc, bon. Et en quoi le quatrième exercice doit être relié aux trois précédents? Est-ce qu'un jour, on l'a enseigné, ça? Bon, voilà. Donc, ça, la crise Covid nous l'a mis en pleine lumière, que déjà, c'était compliqué en classe. C'est impossible à transférer à la maison. Voilà. Donc, espérons que la pandémie va bientôt être régulée, mais ça doit nous interroger sur ce que doit être l'école. Et donc, j'accélère parce qu'il me reste 5-10 minutes. Un autre aspect qui est posé sur le travail collectif, c'est avec les partenaires. Et dans les propositions qui ont été faites par le ministre de l'Éducation nationale au sortir du confinement, il y avait le projet notamment 2S2C, santé, sport, citoyenneté et culture. Et en fait, ce qui s'explique dans un contexte très particulier de scolarisation à mi-temps est en fait, je crois, révélateur d'une logique de projet qui était dans les cartons depuis longtemps, qui consiste à transférer des pans entiers du programme à des activités hors de l'école ou simplement à des activités de santé et de bien-être pour que les élèves se sentent à peu près bien pour attaquer les choses sérieuses quand on passe aux maths et aux français. Et je crois que le sport et les arts, c'est autre chose dans le curriculum commun. C'est autre chose pour créer des repères et que tous les gamins, surtout en ZEP, ont besoin de connaître des choses comme le chant du cœur des esclaves de Verdi, quoi. Voilà. Justement, ils ont besoin de le connaître en ZEP. Et pas seulement renvoyer à l'initiative individuelle comme les clubs du mercredi. Parce que travailler ensemble avec des partenaires, c'est bien d'aller au musée, c'est bien de travailler avec des associations culturelles ou sportives, mais du coup, pas à la place de l'enseignant. Et quelle est la place de l'enseignant pour enseigner quand l'intervenant est dans une logique autre que d'enseignement? Et que ces questions-là, quelle est la place de chacun? Je crois que la crise Covid les repose autrement. Qu'est-ce que travailler collectivement avec des partenaires? Est-ce que des contenus d'enseignement qui étaient présents dans le savoir doivent être externalisés? Manifestement, c'est la pente vers laquelle on va au niveau institutionnel. Ou est-ce que au contraire, on doit s'interroger sur l'intégration à l'école de choses qui relèvent de la moralisation, parce que les éducations, c'est de la moralisation, appelée autrement, plus poliment et plus finement. Peut-être que, est-ce que l'école doit faire autre chose que de la transmission de savoir? C'est ce qu'on a fait avec l'éducation. Quand l'école se déscolarise de l'intérieur et transfère du scolaire à l'extérieur, il me semble que ça vaut la peine de s'arrêter pour réfléchir à ce qu'on fait. Voilà. Et qu'il n'y a pas que des décisions politiques, il y a aussi des enseignants parties prenantes dans cette histoire. J'en terminerai avec le fait de, mais finalement, cette crise met en lumière une question, mais qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce que le savoir? Voilà. Et je vais vous raconter une anecdote et que je ne veux surtout pas généraliser. J'ai une jeune collègue qui travaille dans une autre université, dans un de province, a témoigné de la chose suivante, il ne faut pas généraliser, ce n'est pas vrai dans toutes les universités, ce n'est pas vrai dans la mienne, ce n'est probablement pas vrai à Caen, etc. Mais elle est jeune contractuelle dans une université où elle donne des cours et où les services techniques, informatiques, ont calibré l'espace numérique Moodle et en gros interdisent aux enseignants de faire un cours avec une progression balisée, obligatoire pour les étudiants, interdisent qu'il y ait des vidéos de plus de tant de minutes, et en fait formatent ce que doit être un cours en ligne, parce que leur conception, c'est de dire, ça doit être comme sur Internet, où on vient piocher, c'est plus l'école d'avant, où c'est très didactique, tel qu'ils l'utilisent au sens péjoratif et pas au sens de la théorie didactique, ça ne doit pas être un peu gnagnant, il faut que les gens puissent piocher des contenus à droite à gauche. Donc, on ne va pas généraliser, ce n'est pas vrai dans toutes les universités, et voilà. Mais ça pose une vraie question. Quand l'enseignement repose de plus en plus sur de la technique, quel est le rôle de la technique? Est-ce qu'elle doit être contraignante pour imposer une conception du savoir qui n'est plus du savoir? Je vais y revenir. Ou est-ce que la technique est une ressource, bien sûr, qui a son espace de contrainte propre, mais tout en veillant à ne pas bazarder les acquis que l'on a de ce que c'est qu'apprendre et de ce que c'est qu'enseigner. Parce que le savoir sur Internet, ben, ce n'est plus tout à fait un savoir. C'est une information disponible. Et est-ce que le rôle de l'école, c'est simplement de s'adresser à des cerveaux que l'on considère préformés, voire innés, alors là on revient 60 ou 70 ans en arrière en pensant qu'il y a des gènes de l'intelligence, et que tout est prêt dans la tête. Il suffit de confronter à des informations et l'élève ou l'étudiant est considéré comme un auto-entrepreneur de ses propres apprentissages et donc responsable de l'échec si jamais ça ne marche pas, ce qui est une conception de certaines théories, ou au contraire, les contenus sont des savoirs au sens où c'est en les rencontrant que le cerveau se déplace, que des connexions se font, et que du coup, il n'y a rien d'inné, il n'y a rien de biologique. Ce qui est biologique, c'est le résultat des apprentissages qui se matérialisent dans notre tête. Et donc, le savoir, ce n'est pas une information disponible, c'est ce qui permet de développer nos capacités de réflexion. Et donc, ça pose une vraie question sur le rôle de l'enseignant. Est-ce que l'enseignant est un distributeur d'infos sur des fiches et des supports numériques ou papier? Ou est-ce que l'enseignant, c'est celui qui crée des situations, qui transmet des contenus pour que le contenu vienne déplacer ce qu'il y a dans la tête des gamins et ne pas s'appuyer sur du soi-disant spontané? Et là, je crois que la crise Covid a mis en lumière des impensés, des crises latentes de la conception de la pédagogie qui était dans l'école, et que ça vaut la peine qu'on les prenne à bras le corps comme des questions. Et je crois que mon temps est épuisé. Donc, je vais vous redonner la bibliographie.
Merci infiniment pour cette conférence, comme on a pu lire dans le chat, vivifiante, stimulante, et qui a beaucoup interpellé les participants. Puis merci d'avoir tenu le timing aussi. Ah, il y en a même qui sont déçus que ça s'arrête déjà. Malheureusement, il faut partager. Mais oui, en effet, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on a eu quelques remarques dans le fil de discussion, mais pas tant que ça finalement. Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'est peut-être pas habitué à intervenir directement en écoutant. Et puis, en effet, quand on est trop vivifié, prendre le temps de la réflexion, ça nous pose des regrets puisqu'on doit faire une petite pause pour ne plus écouter ce discours particulièrement passionnant. En effet, on pourrait vous écouter pendant des heures, ça c'est sûr. Alors, je vais peut-être poser une première question très générale, le temps que les participants éventuellement n'hésitez pas vraiment à poser des questions ou même faire des remarques ou proposer des anecdotes, parce que comme je vous l'ai dit, on va aussi externaliser après. Alors, pas le coup conceptuel, on a bien compris qu'il ne fallait pas le faire, mais en tout cas, le fil de discussion comme un matériau brut, ça pour le coup, peut-être qu'on peut le partager pour revenir ensuite. Donc, n'hésitez pas, même si on ne peut pas y répondre de suite. Peut-être, du coup, juste une question très simple, en quelque sorte, presque méthodologique. Vous avez tout simplement dit qu'au début, vous avez enquêté pendant le confinement et que c'était un petit peu compliqué. Est-ce que vous pourriez juste nous en dire un petit peu plus de manière descriptive sur ce fonctionnement? Et puis pendant ce temps, je vais laisser les participants poser leurs questions.
Alors, les chercheurs que nous sommes sont habitués finalement à deux grands types de méthodologies. Bon, je ne vais pas faire un cours de méthodo très long, rassurez-vous. Hein, mais finalement, des méthodes qu'on va appeler rapidement quantitatives, qui passent souvent par le mode questionnaire. Et il y a l'un des chapitres du livre qui repose là-dessus, qui était basé sur une enquête auprès d'étudiants. Mais comment, alors même que le but de l'enquête, c'est de vérifier si tout le monde parmi les étudiants bénéficie des conditions matérielles, techniques, possession d'une machine pour suivre les cours, bah, s'ils n'en ont pas, comment ils répondent à ce type de questionnaire en ligne, par définition, puisqu'on est chacun chez soi. Donc là, il y avait des difficultés à résoudre, objectivement, qui étaient compliquées. Mais pour ma part, les méthodes plus qualitatives, eh bien, en général, on se déplace dans les établissements, on rencontre les gens, c'est quand même une relation je ne dirais pas chaleureuse, mais quand même, on essaie de comprendre ce que les gens ont à la tête, leur logique, leurs contraintes, leur vie. Comment on fait ça à distance? Voilà, c'était quand même un défi. On était enfermés chez nous. Et du coup, je sais qu'il y a des collègues qui ont passé de longs moments avec des enseignants au téléphone, en visio, à recueillir témoignages. Donc, il y a beaucoup d'interviews qui se sont faites effectivement par téléphone ou par visio, comme là. Et aussi, certains ont fait, et c'était mon cas, en plus de ces interviews au téléphone, on instrumentalisait des choses auxquelles ils participaient déjà. Pour ma part, j'étais membre de plusieurs groupes WhatsApp de parents. Un groupe de parents, d'élèves FCPE de la ville dans laquelle j'habite, pas d'originalité. Donc, j'ai gardé toutes les discussions, etc., sur ce fil, les témoignages. Il y a des parents que j'ai relancés en disant, par ailleurs, en plus d'être parent, je suis chercheur, nanani, nanana, est-ce que je peux vous appeler pour vous m'expliquer ceci, cela. Un autre groupe WhatsApp dans lequel étaient réunis des parents d'un club de sport de mon gamin. Et du coup, pendant le confinement, il n'y avait plus d'activité. C'est un sport co, c'est le rugby. Il n'y avait plus d'activité. Les parents parlaient de « c'est le bordel, mon enseignant, il nous donne trop de trucs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une imprimante et peut me l'envoyer ?» Bon, etc. Et donc, j'ai attrapé des parents qui témoignaient ou qui disaient « mais non, c'est pas compliqué, regarde, ils sont dans la même classe, appelle-moi, je peux t'aider. » Bon, voilà. Donc, j'ai essayé d'attraper des témoins par ces canaux-là, ce qui est très imparfait. Et c'est pour ça que notre livre dit que ce sont des chantiers d'enquête, plus que des enquêtes au sens où nous, on aime les faire, sauf qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc, on a fait comme on a pu. Et par contre, une partie des propos que j'ai tenus tout à l'heure relève de la comparaison systématisée entre, finalement, les solutions, les décisions plutôt, qui devrais-je dire, qui ont été proposées par l'institution à chaque étape, confinement, déconfinement progressif, rentrée de septembre, etc., en les comparant avec les déclarations de plusieurs mois ou plusieurs années avant sur les projets. Par exemple, la rhétorique du modèle allemand où le sport et la culture devraient être à l'extérieur, libérer les après-midi, c'est pas un scoop, le 2S2C. C'est dans les cartons depuis 10 ans où tous les ministres qui se succèdent se voient refiler le même dossier par les grands commis de l'État qui leur disent c'est ça qu'il faut dire. Donc, parce qu'ils veulent imposer cette réforme-là et, si j'ai bien compris, réduire le temps d'enseignement. Donc, comparer systématiquement en quoi il y a des logiques de fond préalables et en quoi le confinement vient accélérer et que dans les outils à disposition des décideurs qui sont dans l'improvisation, ben, y a des idées qui étaient déjà là, hop, on les ressort, ces logiques sont réactivées. C'est ça le travail de l'analyse, plus en termes de sciences politiques ou d'analyse des politiques publiques.
Merci bien. Ça a laissé le temps à alimenter beaucoup, beaucoup de questions que j'essaie un peu de condenser. On a un premier ensemble qui est un peu autour de vous être revenu sur la distinction parfois classique entre savoir, information, peut-être parfois on parle de connaissance aussi, et est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, notamment avec justement la question a été traduite un peu de cette manière-là, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'en fait ça veut dire que sur Internet, il n'y aurait que des informations et qu'à l'école des savoirs, comment vous voyez l'articulation entre les deux ?
Alors, je l'ai dit dans le temps imparti de façon un peu caricaturale, mais sur Internet, il n'y a pas que des informations. Disons que déjà, pour se mettre d'accord un peu sur les mots, je vous propose de considérer que le savoir, il est dans un premier temps extérieur aux individus, il est objectivé, hein, il est écrit, il est rédigé, il y a quelque chose, et le fait de se l'approprier devient une connaissance. Bon, voilà, mettons-nous déjà d'accord sur ces deux termes, qui mériteraient d'être discutés, critiqués, c'est une définition parmi d'autres. Ce que je voulais dire par là, c'est que trop souvent, sur Internet, et je trouve de plus en plus à l'école, pourtant avec de bonnes intentions, hein, de conduire les élèves à réfléchir par eux-mêmes, construire le savoir, etc., ben, on fait comme si les élèves avaient déjà des capacités de réflexion propres à la discipline enseignée et étaient capables de les mobiliser pour acquérir quelque chose d'extérieur, un savoir, finalement réduit au statut d'information, qui est « on a les capacités de raisonnement, ah oui, d'accord, on comprend, on prend ». Or, Le fait de rencontrer un savoir nouveau doit conduire, et c'est ça l'enseignement, à transformer les capacités de réflexion, à transformer la façon de voir les choses. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple en tête, mais pendant le confinement, j'ai assisté à une leçon. Un parent m'a filé une leçon qu'avait envoyé un prof de collège sur la colonisation du monde par les Occidentaux à partir de la découverte de l'Amérique, etc. Et donc, de donner une carte du double continent américain en pointant dans quel pays on parlait quelle langue officielle, à certains endroits le français, à d'autres endroits, plutôt en Amérique du Nord ou dans les Caraïbes, l'anglais, ou l'espagnol ou le portugais en Amérique du Sud et Amérique centrale. Au-delà du constat factuel, l'idée, l'information, c'est on parle telle langue dans tel pays. Le savoir, c'est pourquoi on parle telle langue dans le pays, quels sont les processus qui ont conduit à ce qu'il en soit ainsi. C'est l'invasion du monde, du nouveau monde par les Occidentaux qui ont colonisé, tatati, tatata, et que le gamin, au lieu de retenir « Ah, t'as les Anglais, les gens des États-Unis parlent un peu la même langue », on est dans un autre type de rapport, on déplace des conceptions, et ce n'est pas qu'une information disponible, c'est-à-dire qu'on a changé la façon de raisonner et de voir les choses. Une langue nationale, ce n'est pas un donné, c'est une construction qui s'explique historiquement. Voilà, j'étais parti sur l'histoire, c'est un peu mon dada l'histoire, mais je pourrais revenir sur d'autres choses. Et sur ces aspects-là, je crois qu'il n'y a rien de spontané dans la tête des enfants. Or, Internet est à la fois une mine d'or, hein. Je veux dire, on s'en sert, moi j'y passe beaucoup de temps, on apprend beaucoup de choses. Ça peut être un lieu de savoir, ça dépend comment c'est utilisé, ça dépend du type de données qui sont disponibles. Est-ce que ce sont juste des données factuelles ou est-ce qu'il y a les tenants et les aboutissants qui permettent de comprendre d'où ça vient? Et finalement, en termes éducatifs, quel projet a-t-on? Est-ce qu'on veut juste faire acquérir des informations morcelées utiles pour fonctionner au quotidien dans des postes de travail ou dans la vie citoyenne? Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ou est-ce qu'on veut aussi donner, et ça c'est les informations, ou est-ce qu'on veut aussi donner, et là on est plutôt du côté des savoirs, les éléments qui permettent de comprendre pourquoi c'est comme ça et pourquoi il pourrait en être autrement et que ce n'est pas inéluctable et que du coup on peut réfléchir aux situations et pas seulement être efficace et appliquer dedans comme parfois la commande sociale qui est passée à l'école, parfois par les entrepreneurs, voudrait réduire l'école à être un lieu de formation de gens efficaces dans le travail et qui ne posent pas trop de questions.
Merci encore pour cette réponse détaillée. Il nous reste 2-3 minutes juste pour échanger. On a eu pas mal de questions, peut-être un ensemble quand même, plusieurs qui reviennent sur cette tension entre différencier, individualiser et le travail, le commun en quelque sorte. Vous avez montré notamment par rapport à peut-être un discours un peu général ou prescriptif qui serait à différencier, individualiser. Vous avez parlé de comme si chacun pouvait aller piocher un petit peu partout. Votre exemple de Moodle dans une université non citée, je crois, était tout à fait intéressant. Mais comment vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que ça irait jusqu'à dire que, la différenciation, il y a quelque chose de mauvais derrière ça? C'est un petit peu comme ça que ça a été formulé, hein, je me permets. Comment vous envisagez cette tension-là et la place peut-être du commun qui serait redéfinie due au contexte?
Disons que, moi, je n'ai pas d'approche jusque-boutiste anti-différenciation, mais quand on a fait une leçon, et qu'on se rend compte que tout le monde n'a pas raccroché toutes les branches, cette trivialité, qu'on s'adapte et qu'on essaie de reformuler autrement et de rattraper comme on peut, très bien. Mais là, on est dans le second temps. Ce qui m'interroge profondément, c'est que d'emblée, on décide que tous les gamins ne sont pas capables d'apprendre et donc on va déniveler les exigences. Parce que moi, ce que j'ai constaté dans une... Alors, je n'ai pas mis dans les références, mais dans une enquête sur, par exemple, les usages de la littérature de jeunesse à l'école primaire, maternelle et élémentaire, c'est que c'est dès la toute petite section de maternelle que, en ZEP et hors ZEP, les enseignants n'utilisent pas les mêmes livres. Et en ZEP, on s'adapte. On s'adapte à quoi? Les enfants, ils débarquent à l'école en petite section. Il n'y a pas à s'adapter. On enseigne. On part du principe qu'ils ne savent rien et on enseigne. Voilà. En fait, moi, ça serait plutôt ma façon de voir. Or, là, on part du principe que les enfants devraient savoir, alors que la majorité ne sait pas. Voilà. Et donc, on va choisir d'autres livres en petites sections. Hors ZEP, on va plutôt faire des contes, du patrimoine. Et en ZEP, on va faire des livres qui servent à traiter du lexique, avec l'idée que les enfants n'ont pas suffisamment de lexique, mais ils n'ont pas non plus le patrimoine. Et donc, pourquoi on ne pourrait pas transmettre du lexique en traitant du patrimoine? Et donc, l'école construit des parcours inégaux au motif que les élèves sont différents. Mais je crois que dans une société inégalitaire où il y a des classes sociales, si ce qui justifierait une école publique, si on veut continuer à bosser dans ce secteur, sinon après on peut changer de métier, ce qui justifierait une école publique, c'est de dire ben, il y a des injustices, l'école n'est pas là pour dire « Oh, il y a des injustices et donc on va continuer à être injuste avec les enfants de pauvres en enseignement qui est un peu des savoirs factuels et pour les autres des trucs de réflexion », ce qui est quand même la tendance massive, c'est de dire comment, de classe en classe, on crée les conditions pour conduire tout le monde à s'approprier le maximum de choses de commun. Il y a quelque chose d'utopiste dans ce que je dis, au sens où quand on recueille des enfants qui ont eu des parcours différenciés depuis 10 ans, bah, du coup, il y a des écarts et on fait ce qu'on peut par la suite. Mais dans les petites classes, je ne vois pas ce qui l'empêche. Et en fait, je pense que l'école participe à créer les différences au moins autant qu'elle reçoit de différences de l'extérieur. Et donc, que face à des constats de difficulté de tel ou tel élève, parce qu'on n'a pas su, on n'a pas réussi à enseigner de telle sorte que tout le monde apprenne, on cherche des rustines et des bidouilles pour arriver à essayer de rattraper, je ne vais pas dire que je suis contre. Mais de là à instituer que dès le départ, on a comme principe que tous les élèves ne peuvent pas apprendre et donc on ne va pas viser le même enseignement parce que la forme et le fond, c'est la même chose. Si on fait autrement, on enseigne notre contenu, ça c'est inéluctable. Il me semble que les enseignants ne le souhaitent pas en réalité, sauf que comme ils ne se voient pas dotés des outils pour enseigner à tous la même chose, ben, ils font comme ils peuvent et il ne s'agit pas de les culpabiliser, il s'agit de montrer qu'en voulant leur faire enseigner des choses de plus en plus complexes, tout le temps, d'un maximum de disciplines et moins de temps, eh bien, on les a poussés à se dire eh bien, c'est dur d'y arriver pour tous, cherchons à ne pas faire pareil. Et que ça, c'est une contrainte qui vient d'en haut et qu'il faut les libérer de cette contrainte en disant mais redéfinissons ensemble qu'est-ce qui est enseignable pour tous à tous les niveaux de classe, dans chaque discipline. Est-ce qu'il n'y a pas du ménage à faire dans les programmes? Est-ce qu'il n'y a pas à regarder, finalement, l'école, à partir du modèle, non pas de l'élève qui vient d'une famille où il a déjà appris l'école à la maison, mais le modèle d'élève pourrait être celui qui n'a que l'école pour apprendre à l'école.
Je vous remercie infiniment. Il est 10h13. La prochaine conférence sera à 10h15, donc... Je viens de copier les liens dans le fil de discussion. Et donc, on a trois conférences maintenant simultanées, Jean-François Cerisier, Hervé Le Cronier et Marie-France Carnus. Vous avez déjà les liens, mais je les ai remis dans le fil de discussion. Normalement, vous avez déjà choisi. Merci vraiment beaucoup. Ça m'a passionné. Je pense que vu les réactions aussi, c'était le cas de la plupart des participants. Je ne sais pas si vous restez un petit peu avec nous. En tout cas... à votre guise, selon vos disponibilités, vos possibilités, les conférences sont ouvertes. Je rappelais juste qu'à midi aussi, de midi à midi vert, on a ouvert un espace aussi pour allonger le temps de discussion, puisque c'est toujours trop court, ainsi soit-il. Donc je pense qu'on va se quitter.
Merci de votre invitation, au revoir.
Merci beaucoup Stéphane et à une prochaine.